en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président, de cette présentation très flatteuse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers amis, j'appartiens, comme certains d'entre vous, dont je salue d'ailleurs particulièrement la présence, à une génération, peut-être la dernière du genre, qui a mobilisé la même année jusqu'à plus de 400 000 jeunes Français sur un théâtre d'opération que l'on n'appelait pas extérieur, puisqu'il s'agissait des départements français d'Algérie, mais théâtre qui n'allait pas tarder à le devenir extérieur, puisqu'il était appelé à l'indépendance. L'importance des effectifs alors engagés, majoritairement composés d'appelés du contingent qui servait, ce fut mon cas, jusqu'à 28 mois, est sans doute une des explications de l'intérêt que nos citoyens ont porté à l'époque à cet engagement. Nous constituons encore aujourd'hui la majorité des anciens combattants, dont le nombre, à partir d'un million, décroît petit à petit. Mais les jeunes générations s'y intéressent peu, si j'en crois une jeune personne qui, apprenant que j'avais cette qualité, me demanda au titre de quel conflit mondial ça pouvait être. A fortiori aujourd'hui, les quelques 5 à 20 000 soldats de métier engagés pratiquement sans interruption depuis la fin de la guerre d'Algérie sur de nombreux théâtres d'opérations africains, proche-orientaux, voire européens, a fortiori donc retiennent-ils peu l'attention, même si la guerre du Golfe en 1991 avait pu reposer un instant la question de la participation du contingent, puisqu'il y en avait encore un, pour permettre de dépasser les 19 000 hommes de l'engagement français. Mais précisément, cette question a rapidement ouvert la voie à la suspension du service national à partir de 1996-1997. Et pourtant, je voudrais essayer de montrer, à travers le rôle du chef de l'État, chef des armées, auquel je m'intéresse depuis longtemps, je vous remercie, Monsieur le Président, d'y avoir fait allusion, je voudrais montrer que ces opérations extérieures, les OPEX, comme on dit, constitue un élément méconnu de l'action extérieure de la France qui mériterait sans doute qu'on y prêtât un peu plus d'intérêt, en dehors même des crises violentes telles que l'attentat du Drakkar à Beyrouth, les massacres de Srebrenica en Bosnie ou encore ceux du Rwanda, voire les attentats terroristes sur le territoire national. Et je me propose de le faire en analysant devant vous successivement l'histoire rapidement résumé de ces opérations, le rôle central qui tient le chef de l'État et finalement leur impact sur la place internationale de la France. Alors cette histoire, pour commencer, elle va évidemment du précaré africain aux opérations multilatérales proches orientales ou européennes. Premier temps, le précaré africain, dès l'indépendance des États de l'éphémère communauté en 1960, la France avait passé avec eux des accords de coopération militaire pour assurer le maintien d'une zone d'influence française en Afrique. Le chef de l'État de l'époque, le général de Gaulle, a pris soin de créer auprès de lui un secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches, rapidement confié à Jacques Foccart, l'homme qui allait incarner ce que les mauvais esprits appelleraient la France-Afrique, mélange à leurs yeux de politique et d'affairisme. En vertu de clauses publiques ou secrètes de ces accords de coopération, la France recevait la mission d'apporter son soutien au gouvernement en place. Et elle le fit d'abord de manière un peu discrète dès 1960 au profit du président Haïdjo au Cameroun, puis en vertu d'une décision expresse du chef de l'État pour le Gabon en 1964 afin de remettre en place le président Mba, renversé la veille par un putsch militaire, et l'armée française y eut ses premières victimes depuis la guerre d'Algérie. La suite, qu'il serait trop long de relater, a vu alterner à travers les aléas de la politique africaine des opérations de soutien aux gouvernements légaux ou de laisser-faire lors des nombreux putschs contre des dirigeants jugés un peu encombrants, tel l'illustre Abbé Fulbert Youlou au Congo en 1963, voire au moins une opération prêtant directement la main au renversement du pouvoir en place, celui de l'empereur Bokassa à la tête de la République centrafricaine en 1979. Plus spectaculaires et plus médiatisées ont été les opérations menées pour protéger nos concitoyens, voire plus largement des étrangers aux pays en cause, menacés par des rébellions auxquelles le pouvoir en place n'était pas en mesure de faire face. La plus connue de ces opérations est celle menée sur ordre très direct du président Giscard d'Estaing à Kolwezi, au Zaïre, en mai 1978, d'ailleurs avec l'accord du président du Zaïre, le président Mobutu, mais en acheminant nos troupes sur des avions civils prêtés par l'OTAN et sans attendre une intervention belge trop lente à se mettre en place. Le deuxième régiment étranger de parachutistes y perdit 5 hommes. Ces opérations ont pris progressivement une tournure plus internationale. Quand il s'est agi, dans le cadre plus classique de traités d'alliance, d'aider des pays africains à faire face à des agressions de pays voisins. Le cas le plus caractéristique à cet égard est celui du Tchad, menacé régulièrement par des incursions venues de Libye. Même si la présence des forces armées françaises a commencé dans ce pays dès la présidence du général de Gaulle, l'intervention la plus spectaculaire, là encore, celle à l'initiative du président Giscard d'Estaing en avril 1978. Provisoirement couronnée de succès avec l'intervention des avions Jaguar à l'époque, qui arrêtèrent l'avancée des rebelles soutenus par la Libye, elle ne mit pourtant pas un terme à l'instabilité chronique du Tchad, ni à la présence continue de forces françaises venues de qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui face, cette fois, au terrorisme islamiste. Les incursions venues de Libye elles-mêmes n'ont pas cessé, entraînant le 6 février dernier, donc nous sommes en pleine actualité, une nouvelle riposte décisive des avions français, cette fois des Mirage 2000. Mais l'intérêt de ce cas tchadien est qu'il s'était rapidement multilatéralisé avec l'intervention d'une force européenne, l'EUFOR, sous mandat de l'ONU, pour faire face cette fois à des incursions venues du Soudan. Plus contestée a été l'intervention française au Rwanda sous l'égide de l'ONU, alors que le génocide des Tutsis par les Hutus, alliés de la France, avait déjà exercé ses ravages. Il faut bien reconnaître que les autres pays ne se pressaient pas beaucoup plus pour intervenir et que l'opération turquoise, pour tardive qu'elle ait été, notamment du fait, j'y reviendrai, que la France était en cohabitation et que certains des acteurs du jeu politique ne souhaitait agir que sous mandat de l'ONU, cette opération a quand même sauvé des vies, même si ce fut aussi des vies de membres de l'administration Hutu, complices du génocide. Donc les controverses sur le rôle de la France au Rwanda, vous le savez sans doute, n'ont pas fini de rebondir. Aujourd'hui, la présence française en Afrique a pris résolument une forme multilatérale, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique, contre les trafics en tout genre via le Sahara, la Libye ou l'Algérie, trafic de drogue africaine, voire sud-américaine, action de passeurs mafieux, de ressortissants subsahariens. L'opération Barkhane, que vous voyez figurer sur cette carte, l'opération Barkhane, qui déploie 4 500 militaires français sur 5 pays du Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, se mènent en coopération avec les armées de ces pays regroupés depuis 2014 dans ce que l'on appelle le G5 Sahel, ainsi qu'avec la mission des Nations Unies pour le Mali, la MINUSMA. Dans de nombreux autres pays africains, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Centrafrique, des forces françaises ont participé ou participent encore à des missions de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, dans lesquelles elles constituent souvent l'élément majoritaire. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, est d'ailleurs toujours, depuis 20 ans, un diplomate français. Enfin, dans d'autres cas, notamment pour des opérations maritimes de lutte contre la piraterie maritime à la corne de l'Afrique occidentale, ou pour la formation des armées locales, les forces françaises interviennent sous mandat de l'Union européenne. Alors, en deuxième point, les opérations multilatérales extra-africaines. Les choses ont commencé ici aussi au printemps 1978 avec la décision du président Giscard d'Estaing, au lendemain de l'invasion du Liban par l'armée israélienne, de faire participer des forces françaises à la force d'interposition décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce contingent français, au sein de la FINUL, comme on l'appelait, sera malheureusement victime, comme le contingent américain, des attentats du 23 octobre 1983 qui feront 58 morts français dans l'immeuble Drakkar, 241 morts américains sur un autre site de la capitale libanaise. Aujourd'hui, la participation française à la FINUL subsiste au sud Liban à hauteur de 700 hommes, soit une des plus importantes. Toujours au Proche-Orient, l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes de Saddam Hussein en août 1990 a été l'occasion pour le président Mitterrand d'engager vigoureusement la France au sein de l'opération Tempête du désert, placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et menée en priorité par l'armée américaine. Certes, la participation française de 19 000 hommes est restée très minoritaire dans une coalition qui montait jusqu'à plus de 600 000 hommes, et elle était même inférieure de plus de moitié à celle des Britanniques. Mais ce fut probablement la dernière suffisamment nombreuse pour que, comme je l'ai dit, se pose la question de la participation des soldats du contingent présents dans de nombreuses unités appelées à intervenir dans la force d'aguet. Cette question fut résolue par un artifice consistant à faire signer des engagements de courte durée aux appelés, dont la présence était jugée indispensable, notamment dans la marine. Terminé avec l'armistice du 28 février 1991 et l'évacuation du Koweït, elle aura pour la France sa contre-épreuve avec le refus de Jacques Chirac de participer à la Deuxième Guerre du Golfe en 2003, et à ses conséquences d'ailleurs catastrophiques, au-delà de la capture et de la condamnation à mort de Saddam Hussein. En revanche, la France, dans la même région, participe depuis septembre 2014, à hauteur de plus d'un millier d'hommes, à l'opération de soutien multinational à l'armée irakienne dans la lutte contre l'État islamique. Sous le nom américain d'Inherent Resolve, elle regroupe les forces de 79 États. La participation française a pris le nom de Chamal, vous la voyez également indiqué sur la carte. Et depuis 2015, ces forces interviennent aussi dans le même cadre en Syrie, non pas contre le régime syrien, mais bien ici aussi dans la lutte contre l'État islamique. Bon, l'annonce surprise du retrait américain par un tweet du président Trump le 19 décembre dernier est probablement susceptible de remettre cette participation française en cause. Peu après la fin de la guerre du Golfe, l'éclatement de la Yougoslavie avec la proclamation des indépendances de Slovénie et de Croatie en juin 1991, suivi de l'attaque de la Croatie par l'armée fédérale largement serbe, a conduit à la mise en place d'une FORPRONU décidée par le Conseil de sécurité en février 1992, Les opérations se sont alors concentrées sur la Bosnie, en particulier avec le siège de Sarajevo, au point d'entraîner une intervention plus vigoureuse de l'OTAN après un bombardement particulièrement meurtrier d'un marché de cette ville en février 1994. Ce sont d'ailleurs les bombardements de l'OTAN, parallèlement à l'action diplomatique du groupe de contact États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Allemagne, qui finiront par amener la fin de cette première étape du conflit, en 1995 avec les accords de Dayton, non sans quand les forces bosno-serbes de Mladic aient pu encore perpétrer le massacre de Srebrenica en juillet 1995. Les troupes françaises, dont les effectifs sont montés jusqu'à 7000 hommes, ont été les forces étrangères les plus nombreuses, et celles des intervenants extérieurs qui ont subi les plus lourdes pertes, avec 114 tués. Il faut aussi signaler l'intervention de l'OTAN en Afghanistan en riposte aux attentats du 11 septembre 2001. La France y a participé à hauteur de plus de 4000 hommes, et c'est un théâtre d'opération où, comme au Liban, elle a eu de fortes pertes en une fois avec l'embuscade d'Usbin le 18 août 2008. Les dernières forces combattantes françaises ont quitté l'Afghanistan en 2014 après avoir eu 89 tués. Je termine ce rapide historique en citant l'intervention française en Libye, rapidement placée sous la double égide de l'ONU et de l'OTAN et qui a conduit à la mort de Kadhafi en octobre 2011. Il ne s'agissait cette fois que d'interventions aériennes et aéronavales sans troupes régulières au sol. Et c'est également le cas aujourd'hui de l'intervention aérienne menée le 14 avril 2018 en liaison avec les forces américaines et britanniques contre des installations, cette fois du régime syrien, en représailles à une attaque chimique contre les populations civiles. Il s'agit là d'une intervention à laquelle François Hollande avait dû renoncer en 2013 dans les mêmes circonstances d'attaque chimique, la France n'étant alors pas suivie par le président Obama, sous le prétexte d'un démantèlement des armes chimiques patronnées par la Russie, dont la nouvelle attaque de 2018 allait montrer la vanité. J'en viens au deuxième point de mon exposé, le rôle prééminent du chef de l'État. Et tout d'abord, un rappel du cadre constitutionnel, les textes et leur interprétation. Vous le savez bien sûr, la Constitution du 4 octobre 1958, adoptée au milieu de la guerre d'Algérie, est ambiguë en matière de défense. L'article 5 prévoit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités, et l'article 15 dispose qu'il est le chef des armées et qu'il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Mais l'article 20, de son côté, dispose que le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée, et l'article 21 précise que le Premier ministre est responsable de la défense nationale. L'article 34, quant à lui, réserve à la loi votée par le Parlement la fixation des règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens, autrement dit le service national. Et selon l'article 35, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Enfin, l'article 11 relatif au référendum, qui revient un peu d'actualité en ce moment, ne permet au chef de l'État d'y recourir que pour l'organisation des pouvoirs publics ou pour des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale, ce qui ne paraît inclure ni la politique étrangère ni la politique de défense. Alors, les malentendus qui avaient entouré le retour au pouvoir du général de Gaulle ont en fait conduit à sortir très vite de cette ambiguïté et à faire basculer le partage des pouvoirs en faveur du chef de l'État. Car chacun sentait bien que le général de Gaulle était le seul à pouvoir mettre fin au conflit algérien, même si c'était avec l'espoir d'une issue différente selon les camps, ce qui, bien sûr, conduisit à des crises où il était le seul lui-même à pouvoir imposer son autorité, à la rébellion d'une partie de l'armée et de la population pied-noir qui l'avait amené au pouvoir. Le Premier ministre, très attaché à la solution la plus française, n'a pu que s'incliner devant la volonté présidentielle de tourner la page, en acceptant l'indépendance et partir après le référendum qu'il avait entériné, le Parlement, pourtant fort partagé, était trop content de n'être pas directement mêlé à cette solution douloureuse. Mais si de Gaulle a voulu sortir du bourbier algérien, c'était pour construire une défense moderne et indépendante fondée sur la dissuasion. Il n'a pu le faire sans que le Parlement vote les crédits nécessaires à cette fin. Et Michel Debré, pour cela, a dû utiliser à trois reprises fin 1960 l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet de faire adopter un texte sans vote positif dès lors que l'opposition ne parvient pas à réunir une majorité sur une motion de censure. Le gouvernement et, de manière un peu ironique, le Parlement ont retrouvé là leur utilité en matière de défense. Ce rôle du Parlement a été consolidé par la seule modification qu'ont connue ces textes avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, du fait que l'engagement des forces armées ne se traduit plus par une déclaration de guerre à un État étranger, et c'est pratiquement toujours le cas pour les OPEX, l'article 35 a été complété pour obliger le gouvernement à informer le Parlement dans les trois jours de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger et à demander au même Parlement l'autorisation de poursuivre cette intervention au-delà de 4 mois. Alors comment tout cela a-t-il été mis en application en ce qui concerne les OPEX? Alors le rôle prééminent du chef de l'État ressort du rappel historique que je viens de faire, et on peut en donner quelques illustrations dans la pratique, sans remonter jusqu'à Jacques Foccart, mais par exemple, l'insistance mise par Valéry Giscard d'Estaing dans ses mémoires à souligner le caractère jupitérien des décisions qu'il a été appelé à prendre seul pour envoyer des troupes françaises en Afrique ou au Liban. Les démonstrations de François Mitterrand se rendant à Beyrouth après l'attentat du Drakkar, puis faisant une apparition improvisée, aussi courageuse que sans doute inutile, au siège de Sarajevo. Les ordres donnés par un Jacques Chirac en colère lors des prises d'otages humiliantes de troupes françaises en Bosnie, la satisfaction peu charitable de Nicolas Sarkozy lors de la chute de Kadhafi, tout cela annonce sans doute les déclarations de François Hollande, selon lequel la libération du Mali par les troupes françaises face aux attaques islamistes a été le plus beau jour de sa carrière politique. Le président Macron, dans un style plus réservé, ne s'est pas moins conduit en chef de guerre lors du franchissement de la ligne rouge de l'usage des armes chimiques en Syrie au printemps 2018. Mais ceci ne doit pas dissimuler le fait que les décisions du chef des armées sont la plupart du temps préparées, exécutées et suivies par une chaîne d'organismes placés sous son autorité. Le paradoxe pour un juriste est que ce n'est guère au sein du Code de la Défense qu'on trouve le détail de cette organisation. Le seul texte qui mentionne les opérations extérieures est l'article R. 1122-1, qui dispose dans sa rédaction datant de 2009 que le Conseil de Défense et de Sécurité nationale définit les orientations en matière, notamment, de conduite des opérations extérieures. Bon, la suite du texte nous donne la composition de ce conseil. Elle précise que le secrétariat est assuré par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, mais il donne peu de détails sur les modalités de son fonctionnement. En particulier, il ne mentionne pas une personnalité essentielle qui est toujours présente, à savoir le chef de l'état-major particulier du président de la République, qui constitue en réalité l'interface avec le SGDSN, service du Premier ministre, pour la préparation du dossier du chef de l'État et celle du relevé de décision. En deuxième lieu, du fait que ce n'est pas un texte normatif de détailler le fonctionnement concret d'une institution, c'est la seule volonté présidentielle qui détermine la cadence et la date des réunions. Alors que la pratique avait longtemps été celle de conseils de défense mensuels, voire bi- ou trimestriels, les conflits du Proche-Orient et des Balkans ont conduit à tenir beaucoup plus fréquemment des conseils plénier ou restreints, en parallèle avec le Conseil des ministres du mercredi, puis avec une interversion chronologique pour des raisons pratiques, à 9h, donc juste avant le Conseil des ministres. Enfin, la montée des périls terroristes a conduit, à partir de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, le président Hollande à tenir des conseils de défense systématiquement hebdomadaires, et son successeur Emmanuel Macron a maintenu ce rythme. En troisième lieu, si le Code de la Défense consacre plusieurs articles réglementaires au ministre de la Défense et au chef d'état-major des armées, on n'y trouve que peu de mentions de leur rôle essentiel dans la conduite des OPEX. Et par exemple, ces textes ne précisent pas qu'en réalité, le chef d'état-major des armées, comme le chef d'état-major particulier, sont toujours présents aux réunions des conseils de défense, et que c'est le SEMA, comme on dit pour le chef d'état-major des armées, qui dirige l'application des décisions prises à partir de ce nouvel organisme créé au moment de la guerre du Golfe, le Centre de planification et de conduite des opérations CPCO. Peu importe ces imprécisions juridiques, dès lors que les observateurs s'accordent à reconnaître que cette organisation fonctionne correctement. Alors, quatre éléments auraient pu remettre en cause ce bon fonctionnement. Ce fut tout d'abord les situations de cohabitation de 86, 88, 93, 95, 97, 2002. La question était évidemment de savoir si le Premier ministre responsable de la défense nationale allait reprendre le pas sur le chef de l'État. Mais pour la raison essentielle que les premiers ministres de cohabitation étaient à plus ou moins brève échéance candidats à la fonction présidentielle, il n'en a finalement rien été, d'autant que les buts poursuivis par la France dans ces opérations ne faisaient pas l'objet de désaccords profonds, à la différence peut-être de ce qui s'est produit en 1993 pour l'arrêt des essais nucléaires dans le Pacifique. Bon, on a pu assister à des compétitions un peu risibles entre les deux plus hautes autorités de l'État pour être le premier à annoncer la décision de la France de participer ou non à telle opération. Déjà en avril 86 pour le survol de la France par les avions américains qui allaient se livrer au bombardement de la résidence de Kadhafi, de même après le 11 septembre 2011, pour la participation de la France aux opérations en Afghanistan. Peut-être, d'ailleurs, ces situations de cohabitation ont-elles retardé la décision dans des circonstances tragiques, comme dans le cas du Rwanda en 1994 ou la même année en ex-Yougoslavie. Certes, enfin, le circuit de décision a pu être compliqué par la volonté des premiers ministres de faire précéder les conseils de défense par des réunions à Matignon. Mais dans tous ces cas, c'est bien la position du chef des armées qui a finalement prévalu. Et l'adoption du quinquennat en 2000 met pour l'instant la France à l'abri de ce genre de concurrence qui a parfois troublé ses alliés, en particulier américains, dans le cas de l'ex-Yougoslavie. Le deuxième élément qui aurait pu compliquer les choses, c'est évidemment l'intervention obligatoire du Parlement décidée par la révision du 23 juillet 2008. Mais je rappelle que les assemblées doivent seulement être informées dans les 3 jours et que le débat qui peut s'engager n'est pas suivi d'un vote. Et ce n'est que si l'opération se poursuit au-delà de 4 mois que le Parlement doit être appelé à donner un accord par un vote dans lequel l'Assemblée nationale a le dernier mot. C'est effectivement le cas pour la grande majorité des OPEX qui se déroulent effectivement pour une durée beaucoup plus longue que 4 mois. Le seul exemple contraire sont les frappes ponctuelles contre les forces syriennes de Bachar el-Assad le 14 avril 2008 en représailles à l'usage des armes chimiques. Le paradoxe du texte est que l'autorisation d'aller au-delà de 4 mois n'a pas à être renouvelée, même quand l'opération se poursuit plusieurs années sous une forme élargie. Et par exemple, l'opération Barkhane au Sahel se poursuit sur le fondement de l'autorisation donnée il y a plus de 5 ans pour la prolongation de l'intervention française au Mali sous le nom de Serval. Lors des premières discussions à l'été 2018 de la révision constitutionnelle proposée par le gouvernement et actuellement en panne, l'opposition a déposé de très nombreux amendements pour rendre obligatoires des autorisations de prolongation, par exemple tous les 6 mois. Aucun de ces amendements n'a été accepté en première lecture. Troisième élément qui pose question est celui du financement de ces OPEX, car le coût dépasse généralement les prévisions. En octobre 2016, un important rapport de la Cour des comptes est venu souligner que ce surcoût était de l'ordre plus d'un milliard, 1,1 milliard chaque année au cours des 3 derniers exercices. Alors la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, qui vient d'être adoptée, ne porte quant à elle qu'à 1,1 milliard d'euros la prévision annuelle au titre des OPEX, seulement d'ailleurs à partir de l'année 2020. Mais ce qui est peut-être plus important, elle dispose que les surcoûts devront faire l'objet d'un financement interministériel, la participation de la mission défense à ce financement ne pouvant excéder la proportion qu'elle représente dans le budget de l'État. Il s'agit là d'une vieille revendication de tous les ministres de la Défense et de leurs chefs d'état-major des armées, au point de conduire parfois à des crises comme celle qui, en juillet 2017, a abouti au départ du chef d'état-major des armées, le général de Villiers, à la suite des protestations qu'il avait adressées contre l'insuffisance des crédits. Mais les dernières discussions budgétaires ont montré que la question n'était toujours pas vraiment résolue. Enfin, dernier point, à la différence de ce qui se produit dans d'autres pays, notamment d'Europe du Nord, où la question peut remonter jusqu'aux plus hautes instances juridictionnelles, les décisions prises en matière d'opérations extérieures sont en France à l'abri de tout recours contentieux. Le Conseil d'État a eu l'occasion de leur appliquer sa théorie des actes de gouvernement insusceptibles de recours. Déjà, à propos de la décision présidentielle du 24 mars 1999 de faire intervenir la France au Kosovo, puis à nouveau à l'occasion de la décision autorisant le survol de territoires par des avions de la coalition anglo-américaine lors de la Deuxième Guerre du Golfe. Finalement, seule la justice spécialisée dans les affaires militaires peut avoir à connaître de certaines bavures, comme celle de l'exécution sommaire d'un coupeur de route en Côte d'Ivoire en 2005, qui finit par donner lieu en 2012 à des condamnations à des peines de prison avec sursis. On peut donc conclure que notre système de participation de forces françaises à des opérations extérieures a fait preuve à ce jour d'une réelle efficacité. Reste à s'interroger sur l'impact, et ce sera mon dernier point, l'impact de ces opérations sur la position internationale de la France, sujet, je crois, de vos travaux de cette année. Alors, cet impact, je crois qu'on peut l'analyser de 3 points de vue. D'une part, des critiques contradictoires. En deuxième lieu, des effets incontestables. Et enfin, des limites incontournables. Des critiques contradictoires. Dès lors que sont en cause des opérations dans lesquelles des militaires français risquent leur vie à la place ou aux côtés de militaires des pays dont pourraient venir les critiques, celles-ci portent rarement sur la conduite des opérations dans ce domaine. Elles émanent plus d'organisations de défense des droits de l'homme que de gouvernements étrangers, sauf peut-être aujourd'hui au Proche-Orient de la part de la Russie et de ses alliés. Mais la France n'est pas ici non plus à l'abri de contestations des inévitables dommages collatéraux touchant les populations civiles, comme toute autre puissance militaire engagée. Même si nos forces aériennes s'efforcent de pratiquer des bombardements sans doute plus ciblés que ceux d'autres forces aériennes, américaines ou surtout russes. Mais de manière symétrique, la France n'échappe guère plus à la critique d'un engagement trop tardif ou insuffisant que toute puissance engagée, au nom du devoir de protéger institué par les Nations Unies depuis 2005 dans des opérations multilatérales, trop lentes à mettre en place pour empêcher des massacres. Bon, elle a essayé d'y répondre sur le plan interne par des missions d'information parlementaires comme celle menée sous la présidence de Paul Quillès pour le Rwanda en 1998 ou de François Lonk pour Srebrenica en 2001. Quand finalement elle retire ses troupes, elle se voit reprocher, là encore, de manière encore un peu contradictoire, de le faire trop prématurément ou sans avoir protégé ceux qui se sont engagés à ses côtés, comme par exemple aujourd'hui pour les interprètes afghans, ou peut-être demain pour les forces kurdes en Syrie. Quant au degré d'engagement des forces françaises en comparaison de celles de nos alliés, il a fallu attendre Barack Obama, puis sous une forme plus brutale, Donald Trump, pour que le niveau des dépenses militaires de notre pays soit critiqué par son principal allié comme insuffisant. Mais en regard de ce pourcentage, en regard de celui des autres pays de l'OTAN ou de l'Union européenne, nous met, me semble-t-il, à l'abri de ces critiques, la France étant avec le Royaume-Uni le seul grand pays européen à approcher des 2% de son produit intérieur brut en dépenses militaires. Quant à la participation sur le terrain à des opérations sous l'égide de l'OTAN, de l'ONU ou de l'Union européenne, la place des forces françaises est plus qu'honorable, non seulement quantitativement, je l'ai dit, mais aussi qualitativement. Il est reconnu qu'avec les troupes britanniques, les troupes françaises sont les seules troupes européennes véritablement opérationnelles. Leur efficacité a été particulièrement appréciée, y compris par l'opinion publique américaine, au moment de l'intervention éclair au Mali. Et, encore une fois, ce n'est pas un hasard si le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix est constamment un diplomate français. Deuxième conséquence des effets incontestables, sinon incontestés, les OPEX ont été, je le crois, l'occasion de redonner à l'armée française une réputation internationale que ni la Seconde Guerre mondiale ni les conflits de la décolonisation, Indochine ou Algérie, ne lui avaient permis de retrouver après le désastre de 1940, malgré les succès des armées de la France libre et les sacrifices des armées engagées sur les théâtres coloniaux. Il ne faut pas oublier que c'est au prix de pertes en vie humaine, près de 700 morts depuis le début des OPEX, sans compter les très nombreux blessés. Mais cela ne diminue pas non plus la popularité de l'armée sur le plan national, qui reste, selon les enquêtes du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, une des rares organisations ou institutions ayant une cote de popularité autour de 75% d'opinion favorable, notamment depuis son engagement dans la lutte contre le terrorisme sur le sol métropolitain avec l'opération Sentinelle, qui a fait faire encore un bond à sa popularité qui était déjà élevée. Les risques encourus ne mettent pas de frein, pour l'instant, aux nombreuses candidatures au métier militaire. Paradoxalement, l'utilisation de cet instrument éminemment régalien a fait évoluer la position de la France vers un engagement multilatéral qui n'aurait pas été imaginable sous les présidences de Gaulle ou Pompidou. Ça n'a pas été toujours sans réticence ni aller-retour. La crise de 2003 au sujet de l'Irak a été un exemple de retour à une affirmation de l'indépendance nationale. Inversement, les réticences initiales de la diplomatie française, qui n'aurait pas généralement préféré que l'action de nos forces en OPEX fût placée sous le drapeau des Nations Unies, n'ont pas mis obstacle à l'engagement au sein de l'OTAN, en Bosnie, au Kosovo, en Libye et finalement au retour dans le commandement intégré de l'organisation atlantique décidé par Nicolas Sarkozy en 2008. Et l'on reparle de défense européenne, sujet que connaît bien M. Louis Gauthier, dont il vous parlera peut-être. Enfin, retombée non négligeable de cet engagement des forces et du matériel français sur le terrain, la France tient une place importante sur le marché de la vente de ce matériel, dont l'efficacité est prouvée in concreto, ce qui est loin d'être négligeable pour l'équilibre fragile de son marché de l'emploi et de sa balance des paiements, et qui d'ailleurs contribue à son tour au perfectionnement de ses armes. Certes, le principe posé par l'article 6, paragraphe 3 du traité des Nations Unies sur le commerce des armes entré en vigueur en 2014 et auquel la France est partie, est qu'il ne peut y avoir de vente si l'on a connaissance que ces armes peuvent être employées contre les populations civiles. Mais on sait que malgré les strictes procédures de contrôle des ventes d'armement, le respect de cette règle reste souvent contesté, notamment dans le cas de ventes à destination d'États du Proche-Orient. Au demeurant, les plus gros clients de la France, on peut préférer la vente de sous-marins à l'Australie annoncée ce jour. Enfin, troisième point des conséquences de ces OPEX, des limites incontournables. Le plus grave problème que posent les opérations extérieures est celui de l'après. On a vu que beaucoup se prolongeaient très au-delà de la limite de 4 mois qui déclenche l'intervention du Parlement. Il serait probablement souhaitable qu'un débat puisse un jour avoir lieu sur l'intérêt pour la France d'une présence militaire au Liban, dans le cadre onusien, ou au Tchad, où elle se prolonge depuis 40 ans. On pourrait de même s'intéresser un jour au rapport qui peut exister entre les succès remportés sur des terrains lointains contre les organisations terroristes, Al-Qaïda, Taliban, État islamique, et la montée des attentats sur le sol national. Enfin, tout aussi gravement, lorsque finalement les troupes françaises peuvent être retirées comme en Afghanistan, on pourrait se demander si la situation du pays est véritablement stabilisée ou au moins améliorée par rapport à la situation antérieure. Et la même remarque est valable pour la Libye, risque malheureusement de l'être pour la Syrie. La solution militaire ne peut être efficace que si la diplomatie prend le relais, comme d'une certaine manière ce fut le cas pour la Yougoslavie. Or, on pardonnera à l'ancien président de la section des finances du Conseil d'État de se poser en terminant la question. Les ressources budgétaires de la France lui permettent-elles pour tenir dignement son rang de puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui est incontestablement un des axes de sa politique de défense, lui permettent-elles de mener toutes ces opérations en même temps ? Rôle de premier plan dans les opérations des Nations Unies, de l'OTAN ou de l'Union européenne, sécurité intérieure passant par la lutte contre le terrorisme à l'intérieur comme à l'extérieur, dissuasion enfin jugée indispensable à l'indépendance nationale. Le moins qu'on puisse dire est que l'opinion publique ne paraît pas s'en préoccuper, ni dans les temps ordinaires, par exemple à l'occasion d'une nouvelle loi de programmation, ni lors des échéances électorales, voire du grand débat national lancé par le gouvernement actuel. Je ne peux que remercier l'Académie des sciences morales et politiques de m'avoir donné l'occasion de poser ces questions. Je vous remercie.